Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul est à l'aéropage d'Athènes et il prêche à ces gens qui ne passaient leur temps qu'à écouter des nouvelles. Ils essayaient de tout savoir. Et on va lire donc Actes 17, 24, si vous avez votre Bible. Actes 17, 24. Il y a dans ce texte de grandes vérités. Actes chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme dont Médamaris et d'autres avec eux. Amen. Dans ce texte nous enseigne que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Est-ce que vous le saviez? Eh ouais, c'est fixé, c'est écrit. Dans le prophète Amos, nous voyons que Dieu a un problème avec son peuple. Et il va tout faire pour que son peuple revienne à lui. Ça pourrait correspondre à ce qui se passe dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Amos chapitre 4, vous connaissez tous le verset 12. Dieu, tout d'un coup, s'adresse au peuple, à la deuxième personne du singulier, il change de pronom personnel. Tout le long du chapitre, il parle au pluriel, vous, vous, vous. Et puis tout d'un coup, il interpelle directement. C'est pour ça que Dieu dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi. C'est une question qu'on devrait adresser à tous les hommes. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu, ton Dieu? Prépare-toi. Il n'aurait pas dit prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que vous savez que le Dieu du ciel et de la terre, c'est votre Dieu? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que moi j'en veux pas, mais de toute façon c'est quand même votre Dieu. C'est peut-être pas votre Père, c'est peut-être pas. Parce que pour que Dieu, votre Dieu, devienne votre Père, il vous faut passer par la repentance. Il y a beaucoup de gens qui récitent le Notre Père. Combien de gens, d'après vous, sur terre, récitent ou prient, ne jugeons pas trop vite, le Notre Père? Il a été calculé qu'il y avait au moins 1 milliard de personnes par jour sur terre qui priaient ou récitaient le Notre Père. Parce qu'on n'a pas à dire qu'elle prie. Elle récite, après tout, on n'a pas à juger. Vous comprenez, je veux dire. Il y a des gens qui peut-être le prient de tout leur cœur, le Notre Père. Mais Dieu ne devient notre Père que quand nous sommes devenus ses enfants. La Palisse l'aurait dit, mais quand même, il faut quand même l'expliquer. Que quand quelqu'un accepte Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Alors dans ce chapitre où Dieu dit, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ça peut arriver quand ça? Quand est-ce que ça peut vous arriver de rencontrer Dieu? Ah oui, ça peut arriver. Rappelez cet homme dans l'Évangile qui a bossé, il a travaillé, c'est bien, il a bien fait. Et il a dit, voilà, mon âme, tu as beaucoup de biens réservés pour des années, mange, bois, réjouis-toi, etc., etc. Et puis Dieu l'interpelle, tu sais pas, mais tu es malade. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ça veut dire, cette nuit même, tu vas devoir me rencontrer. Et est-ce que tu es prêt? Des fois, les gens nous demandent, mais qu'est-ce que les gens font dans les églises? Pourquoi les gens vont dans les églises? Eh bien, c'est pour que nous maintenions ce salut. Travailler à votre salut, dit la Bible. Eh bien, lorsque on se réunit, on s'interroge, on prend la Sainte Cène, on chante des cantiques qui nous interpellent, on écoute la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu a à nous dire, qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Et là, on voit dans ce chapitre ce que le Seigneur a dû faire pour les ramener à lui. Regardez au verset 6 de ce chapitre 4. Au verset 6, le Seigneur leur explique ce qu'il a dû faire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et moi, il parle, je vous ai envoyé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il vous faut m'aider, je suis levé depuis 5h30, il vous faut m'aider. Je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Pourquoi il avait fait ça, le Seigneur ? Parce qu'il ne les aimait pas ? Est-ce que Dieu aimait le peuple d'Israël ? Oui. Et pourquoi Dieu a fait ça ? La suite, il faut le lire. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, Dieu contrôle tout. Dieu a déterminé les bornes des demeures. Qui c'est qui a créé les nations ? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a donné la limite à toutes les nations ? C'est écrit dans la Bible ? Oui, c'est écrit. Dieu a tout préparé, tout déterminé. Il règne dans les cieux et sur la terre. C'est vrai qu'il crée la prospérité. Est-ce que Dieu peut vous faire prospérer ? Même dans un temps de crise, est-ce que Dieu peut vous faire prospérer ? Mais c'est évident. Vous savez, ce sont des choses qui sont personnelles, en même temps collectives. C'est là que l'on voit d'ailleurs dans ce chapitre, Dieu parle au pluriel, « Mais vous, mais vous, mais vous ». Et puis à un moment donné, il interpelle les gens. « Mais prépare-toi ». C'est vrai que nous avons une responsabilité collective, mais en vérité, comme Jésus dit à Pierre, « Que t'importent les autres ? Toi, suis-moi ». Alors ce que Dieu n'est pas capable de faire, on le voit. Ce qui se passe en ce moment au Japon, c'est quand même impressionnant quand même. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est quand même terrible ce qui se passe. Pourquoi Dieu permet-il ceci ? Ou est-ce que vous croyez que c'est le diable qui contrôle ces choses ? Vous savez, il y a des gens qui diabolisent tout. C'est un problème ça, lorsque je vois des gens, ils diabolisent tout. C'est ridicule, je le dis pour faire vite, c'est ridicule. Vous croyez que, je vais vous dire, moi, si le diable pouvait empêcher que les prophéties s'accomplissent, laissez-moi vous dire qu'il le ferait. Bien sûr que ça nous dépasse, parce que c'est comme l'histoire de Job. Qu'est-ce qu'il pouvait comprendre, Job, dans ce grand combat spirituel qu'il était en train de vivre ? Et Dieu va lui expliquer qu'on ne peut pas tout comprendre, mais qu'on peut faire confiance à Dieu. Dieu a promis, prophétisé qu'il y aurait des tremblements de terre, de grands tremblements de terre. Eh bien, on en a vu, et ce n'est pas le dernier. Quand il y a eu le tsunami en Indonésie, il y avait des spécialistes qui ont dit « Oh, on est sorti d'affaires, il y en a un que tous les siècles. » J'ai entendu ça, vous l'avez entendu aussi. Il y en a un tous les siècles. Il y a eu trois en six ans. Trois graves. Et le Seigneur, il parle. « Je vous ai envoyé la famine. » C'est terrible, ça. Il y avait un Japonais qui, à midi, je regardais les informations, un Japonais qui a pris un repas chaud ce midi, un premier repas chaud depuis 6 jours ou 7 jours. Et il pleurait. Vous le verrez certainement ce soir. Il pleurait parce que il était bouleversé d'avoir un repas chaud. J'espère que nous aimons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne. C'est une bénédiction d'avoir un repas chaud. Un chocolat chaud le matin, c'est pas une... Nous on s'habitue, mais c'est une bénédiction. Vous le savez ? Et c'est parce que les gens sont de plus en plus égoïstes, indifférents. Vous savez, le problème dans le peuple d'Israël, qui sont tombés même dans l'idolâtrie, ça a toujours commencé, toujours, avec l'indifférence. C'est comme ça. Ça commence pas de suite avec l'idolâtrie, avec les péchés. Ça commence toujours avec de l'indifférence. Et quand je voyais ce pépé pleurer, je disais, Seigneur, qu'on sache te remercier pour chaque repas. N'attendons pas des affaires graves pour commencer à réaliser que c'est une bénédiction d'avoir un repas chaud. En tous les cas, nous voyons dans ce chapitre 4 d'Amos ce que Dieu est capable de faire pour que les gens reviennent à Dieu. Au fait, je vous pose une question, j'en sais rien, mais c'est une question. Est-ce que vous croyez que tout ce qui est en train de se passer, les soulèvements, une nation contre une nation, un pays contre un pays, les guerres, les soulèvements, les guerres civiles comme en Côte d'Ivoire, etc. Est-ce que ça va ramener les gens à Dieu ? J'espère que ça va ramener au moins les rétrogrades, mais j'ai quelques réserves.
Ça ne devrait pas ramener les rétrogrades au Seigneur? Sérieusement, dites-moi, un chrétien qui a rétrogradé, qui a lu Matthieu 24, qui a lu Luc 21, quand on lit ces deux chapitres, on a l'impression de lire le journal du jour. Mais voyez, le Seigneur dit à chaque fois, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. On lit le prochain verset. Dieu envoie la famine. Au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Et moi, je vous ai refusé la pluie. Voyez, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville, un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'ait pas reçu s'est desséché, 2-3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Quand j'écoute les informations, et vous savez, quand il prévoit la pluie pour 2 ou 3 jours, oh que c'est triste, que c'est dommage, il va pleuvoir pendant 3 jours. Je me dis, les pauvres, s'ils savaient la bénédiction que c'est. Parce que vous savez, le pays est rempli de nappes phréatiques. Et il faut que ces nappes se remplissent pour qu'on ait de l'eau dans les puits l'été. Bien sûr que vous préféreriez qu'il fasse toujours chaud. Mais je peux vous dire que s'il faisait toujours chaud, ça serait grave dans quelques mois. Béni soit le Seigneur pour les nappes phréatiques qui se remplissent. Bien sûr que nous, on préférerait le soleil et sortir en claquette, même au mois de mars. Mais laissez-moi vous dire que c'est une grande bénédiction qu'il ait plu toute la semaine derrière, doucement. Et il faut faire attention à ce que les journalistes nous racontent. Parce que croyez-moi, qu'il pleuve au printemps, c'est une grande bénédiction. Croyez-moi. Et tout ça, vous voyez, on est dans un monde avec une mentalité qui nous téléguide. Et il faut faire attention à ces choses. Nous avons lu dans les Actes, Dieu annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir, que la religion, ça ne suffit pas. Ils avaient une religion, d'ailleurs au verset 4, vous avez vu ce que Dieu leur dit? Allez à Bethel. Bethel, c'était des lieux de culte. Gilgal, c'était des lieux de culte. Allez à Bethel. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Le Seigneur est péché. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des lieux de culte, mais ils n'obéissaient pas à Dieu. Et on peut aller dans une église et ne pas obéir à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Ils s'imaginent qu'ils sont spirituels parce qu'ils chantent un cantique, parce qu'ils prient et qu'ils vont dans un temple. On n'est pas spirituel parce qu'on va dans une église, qu'on chante des cantiques et qu'on prie. On est spirituel quand on adapte notre vie de tous les jours aux principes bibliques. Voilà, la Bible me donne tel conseil dans ma vie de couple, et bien je m'y adapte. Dans mon travail, j'ai des conseils, et bien je les applique, etc. Donc Dieu essaie de ramener toujours les hommes à lui. C'est ce qu'il faisait du temps d'Amos, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Moi je crois que ce qui est en train de se passer, ce sont les prémices de la colère pour ramener les rétrogrades à la croix. Parce que quand même, est-ce que vous ne croyez pas que c'est la volonté de Dieu que tous les rétrogrades reviennent à lui? Dites-moi franchement, si les pécheurs lèvent le poing contre Dieu, on le voit, c'est les gens, on le voit dans l'Apocalypse, ils admireront la bête. C'est écrit ou c'est pas écrit ça? Ils admireront la bête. Alors on ne prend pas le chemin d'adorer le Seigneur. Mais au moins que ce qui se passe ramène les fils prodigues au Seigneur. Et ils ne veulent pas. On voit, regardez ce qu'il a encore utilisé le Seigneur. Alors il a utilisé la famine, le manque de pain, la pluie. Au verset 9, « Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous, verset 10, la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre champ. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. » Et on voit dans la Bible, je vous dis cette affaire, vous voyez, on n'est pas reconnaissant. Ça commence toujours, toujours par l'indifférence, l'ingratitude. Pour mieux comprendre, il faudrait que cette semaine, vous méditiez le psaume 106. On va faire un petit tour dans le psaume 106. Dans le psaume 106, il y a le processus de la maladie. Car c'est une maladie spirituelle. Comment un cœur s'éloigne-t-il de Dieu? C'est une question, ça. Non? On peut poser une question. Comment un cœur, comment un chrétien, je ne parle pas comment un païen s'approche de Dieu. Je pose une question, comment un chrétien s'éloigne-t-il de Dieu? Je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'indifférence. Regardez avec moi, dans le psaume 106, au verset 7, ça commence comme ça. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Je parlais tout à l'heure d'un repas chaud, c'est une grâce. C'est une grâce. Même ce soir, si vous mangiez qu'un bouillon avec 80 vermicelles chaud, c'est une grâce. Oui ou non? Ils ont commencé, pourtant ils avaient vu des miracles et tout, non? Le début de la maladie, c'est l'indifférence. Toujours. Si vous rendez grâce, ben ouais, c'est normal, après tout, je bosse, j'ai mon salaire, c'est normal. Hein Dieu, d'accord, mais enfin, c'est quand même moi qui bosse. Vous savez, si vous avez la santé pour bosser, à lui, nous avons le mouvement, la respiration. Si vous avez un doute, vous allez à Rangueil, H2, traumatologie, et vous restez une demi-heure. Et vous verrez que c'est bien d'avoir les deux bras et les deux jambes. Vous me croyez?
Ouais.
Ils ne se rappelèrent pas la multitude de ses grâces. Verset 13. Verset 13. Ils oublièrent. Voyez, on commence à être indifférent, puis après on oublie. Ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Voyez, vous parlez avec des gens, des fois, mais vous ne vous rappelez pas comment le Seigneur vous a béni? Ah non. Mais vous étiez malade? Oui, je sais, mais oh non, moi j'ai tout oublié. C'est bien d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait. C'est comme ça que la maladie spirituelle commence. Comment les gens s'éloignent de Dieu. Verset 21. Ils oublièrent. Alors, qu'ils oublient les œuvres, bon, à la limite, c'est grave. Mais là, ça va plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Ils oublièrent, verset 21, ils oublièrent Dieu. Vous voyez? On commence à ne pas rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Puis après, on oublie tout. Et puis, on finit par oublier le Seigneur lui-même. Verset 24, ils méprisèrent le pays des délices. C'est quoi pour nous le pays des délices? C'est le ciel. Vous y pensez au ciel? Est-ce que vous pensez? Parce que quand même, ça va durer longtemps cette affaire. Est-ce que vous y pensez longtemps? Le jour où le Seigneur va nous prendre, bon, il y aura les noces de l'agneau. C'est déjà bien les noces de l'agneau. Les récompenses. Mais après, il va y avoir le millénium. On va régner avec lui pendant 1000 ans. Bon, déjà, c'est rien, 1000 ans dans l'éternité. Mais quand même, c'est bien. Il vaut mieux les passer à régner avec lui. Et après le millénium, il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Enfin, c'est un programme. Et voyez, les Hébreux, ils ont tout oublié. Eux, le pays de Canaan, ils ont tout oublié. Est-ce que vous y pensez au ciel? Vous y pensez? Est-ce que vous dites, ouais, ça sera chouette? Est-ce que vous le dites? Mieux que chouette? Est-ce que vous y pensez? Eh ouais! Il ne faut pas oublier ces choses. Il faut avoir de l'espérance. La Bible dit qu'il y a trois choses qui doivent demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont des vertus qu'on devrait. On devrait veiller comme on veille sur la voiture. Tiens, le voyant de l'huile, de suite on s'arrête. Ceux qui ne s'arrêtent pas, ceux qui ne le vérifient pas parfois, hein, eh bien, ils flambent le joint de culasse. C'est pas vrai? Et ça coûte cher. Ouais. Le pays des délices, tout ça, ils ont méprisé. Le ciel, le ciel, le ciel. Il y en a qui me disent, oh, monsieur Gros, le ciel, c'est tellement lointain, le ciel. Oui, mais enfin, je suis là. Oui, d'accord. Bien sûr qu'on est là. Mais je sais bien. C'est pour ça, ne méprisons pas les choses. Verset 35, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voyez, la maladie, là, elle est, ça y est. Ça, c'est pas bon. Ils se mêlèrent avec les nations. Ils apprirent leurs œuvres. Vous avez vu? Ça a commencé par de l'indifférence. Et maintenant, ils se mélangent avec les nations, on fait comme les païens, on imite les autres, on fait comme les autres. Les chrétiens se moquent, les païens, ils aiment les blagues à deux balles, et bien les chrétiens, ils aiment les blagues à deux balles. Voilà. La légèreté, c'est ça. Vous voyez, ils se mêlèrent aux nations. On se plaît plus avec les gens du monde, comme disait un jour un ex-chrétien, il disait, moi je me plais dans les bistrots, là, moi on rigole avec les gens du monde, on est bien, ça c'est mieux que la communion fraternelle. Mais ce chrétien, c'est bizarre. Je ne le vois plus. Eh ouais, on se mêle avec le monde. Vous voyez, ça commence avec l'indifférence. Mais ça va, c'est pas fini. C'est pas fini. Et voyez au verset 43, plusieurs fois il les délivra, ils se montrèrent rebelles dans leur dessein. Et ils devinrent malheureux. Vous voyez, par leur iniquité. C'est parti de l'indifférence et ils devenaient rebelles. C'est progressif. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand Dieu parle, on voit, quand Dieu parle, c'est pas, il n'arrive pas avec un bâton, en disant voilà, ça va marder, ça va aller mal. C'est un Dieu d'amour qui vient. Cet après-midi, nous affaire à un Dieu d'amour. Il est plein d'amour quand Dieu dit, mais prépare-toi. C'est pas un message de jugement. Se rencontrer Dieu, c'est un message d'amour ou c'est un message de jugement? C'est un message d'amour. Alors je ne sais pas si tout va, peut-être que tout va bien dans votre vie aujourd'hui. Peut-être que vous avez des projets, vous envisagez de fonder un foyer, vous avez fondé un foyer, vous voulez acheter une maison, la bourse va bien, le CAC 40, ça se passe pas trop mal, etc. Vous avez une jolie voiture, etc., etc. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous appréciez ce que Dieu vous a donné? Il faut continuer à l'apprécier. Et n'arrêtez pas de lui dire merci avec votre cœur. N'arrêtez pas. Parce que Dieu peut provoquer des choses. La faim, la soif, la sécheresse, la maladie, les pestes, les soulèvements. Là, ça n'y a rien fait. Ça n'a servi à rien. Est-ce que vous réagissez bien dans l'épreuve? Quand vous avez une épreuve, est-ce que vous dites Seigneur merci? Ça vous arrive d'avoir des épreuves? Comment vous réagissez dans l'épreuve? Est-ce que vous dites Seigneur, j'ai compris. Ce matin, on a chanté un beau cantique. Mon cœur voudrait t'aimer pour tout accepter. Seigneur, cette épreuve, je l'accepte. Et tu m'interpelles pour améliorer ma façon de voir les choses, pour améliorer ma communion avec toi. Il faudrait comprendre que ce que Dieu permet, c'est toujours pour nous ramener à lui. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà engagé dans le processus du psaume 106, mais il faut que nous comprenions une chose, comme quand Dieu passe du pronom personnel « vous » au pronom personnel « tu », il faut que nous comprenions que c'est une affaire individuelle, que c'est à chacun de vous. C'est pour ça que le baptême, j'aime bien avoir un entretien privé avec chacun de ceux qui veulent prendre le baptême. Alors, parce que Dieu, si on n'accepte pas sa grâce, si on n'accepte pas sa bonté, si on n'accepte pas son pardon, il nous appellera en jugement. C'est écrit dans l'Ecclésiaste 12, Dieu t'appellera en jugement. Et le monde entier connaîtra le jugement. Ceux qui ne veulent pas de Dieu. Bien sûr, si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, vous ne connaîtrez pas le jugement dans le sens de condamnation. Vous connaîtrez le jugement dans le sens de rendre compte à Dieu. Quand il est dit « le jugement commence par la maison de Dieu », le jugement, ça n'est pas toujours synonyme de condamnation. Le jugement, ça peut être aussi un compte à rendre. Je rends des comptes. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « l'Église sera jugée ». Je dis « mais vous avez vu ça où ?» Dans la Bible. L'Église sera jugée. Alors, est-ce que l'Église sera jugée? Mais non, dans le sens de condamnation, non, l'Église rendra des comptes. Dieu a écrit toutes ces choses, on les lit, pour nous faire réfléchir à l'éternité. Est-ce que les gens pensent à l'éternité? Vous savez qu'il y a un pays, je ne sais plus, c'est un pays du Nord, je ne sais plus si c'est la Suède ou la Norvège ou le Danemark. Ils ont eu une idée il y a un an ou deux. Les chrétiens de cette grande ville ont eu une idée. Ils ont dit... on va aider les croyants à la période de Noël à réfléchir sur leur éternité. C'était une bonne idée. Et ils ont fait mettre à l'entrée de la ville, aux grandes agglomérations de la ville, un panneau, pensez à votre éternité. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Eh bien, il y a eu une pétition qui a été faite pour que tous les panneaux soient enlevés au bout de quelques jours. Les gens ne supportaient pas l'idée de cette question. Ils ont fait enlever les panneaux. Vous voyez ? Alors que c'est important d'aider les gens à se préparer à rencontrer Dieu. Alors, quand est-ce qu'on est prêt ? Quand est-ce qu'on n'est pas prêt ? Parce qu'après tout, c'est ça. Puisqu'il y a une date sur le calendrier du Seigneur, puisque Dieu a fixé un jour où il jugera tous les hommes. C'est écrit. On l'a lu ? Dieu a fixé un jour. Est-ce que vous aimeriez savoir la date ? Dieu a fixé un jour. Est-ce que Dieu a un calendrier ? Est-ce que Dieu a un agenda? Pas comme le nôtre, mais est-ce que... oui, puisqu'il a fixé un jour, Dieu a donc un agenda. Convocation de tous les hommes. Alors, êtes-vous prêts? Les églises sont-elles prêtes? L'assemblée de Toulouse-Saint-Agne est-elle prête? Votre religion, si vous en avez une, vous permet-elle d'être prêt? Et oui, parce qu'il y a des gens qui disent « mais moi j'ai ma religion ». Donc, ça voudrait dire qu'il y a des religions qui nous permettent d'être prêts. Alors, est-ce que c'est la religion qui nous permet d'être prêts? Qui cherche Dieu cet après-midi? Est-ce que vous cherchez Dieu? Qui cherche Dieu dans cette ville de Toulouse? Qui cherche Dieu dans ce pays? Qui c'est qui cherche Dieu? Vous le savez, vous? Est-ce que parce qu'on va dans les églises, on cherche Dieu? Ouais, c'est des questions, quand même. Alors, quand est-ce qu'un homme n'est pas prêt? On va terminer avec quelques questions. Quand est-ce qu'un homme n'est pas prêt? Quand il offense Dieu, quand il pense que le péché, c'est pas grave. Il y a des gens qui vous disent, des chrétiens, « Oh, arrêtez, le péché, c'est pas grave, Jésus est mort pour le péché. » Est-ce que c'est grave le péché? Eh oui. Ça vous arrive d'en commettre ? Oui. Bien sûr. Mais c'est grave. Mais quand on prend conscience que c'est grave, c'est déjà autre chose. Oh Seigneur, pardon. Oh, j'ai pensé du mal d'un frère. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez ? C'est ça être intelligent. Parce que la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Mais il faut faire la différence, voyez, entre le péché volontaire et le péché involontaire. Entre le péché qu'on prête à la légère et puis le péché que non, c'est grave, non, c'est pas bien. Vous voyez ? Un homme qui traite le péché à la légère n'est pas prêt, je vous le dis. Un homme n'est pas prêt tant qu'il n'est pas revenu à Dieu. Mais moi j'ai ma religion, mais moi je dis, mais ça m'est égal que vous ayez une religion, même si vous êtes pentecôtiste. Est-ce que parce qu'on est pentecôtiste, est-ce que parce qu'on est d'une église évangélique, on est prêt ? Il y a des gens, des fois, ils ont de ces idées. Ils s'imaginent qu'un chrétien de telle dénomination est mieux qu'un chrétien de telle autre dénomination. Est-ce que c'est intelligent, ça ? Mais non, ça veut absolument rien dire. Quand un chrétien foule au pied le sang de Jésus, c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux la Sainte Cène. Regardez ce texte avec moi dans Hébreux 10. Moi, c'est un texte qui m'a toujours remis d'équerre. Dans Hébreux, chapitre 10, c'est un texte qui interpelle vraiment. Parce que je fais vraiment la différence entre le péché volontaire. Je vis dans le péché, c'est mon problème. Ça me regarde, ça c'est pas bien. Et puis le péché involontaire, oh, j'ai péché mais je vais le régler. Oh, j'ai dit ça, c'est pas vrai, j'ai menti. Oh, il faut que je règle ça, je vais appeler la personne et lui demander pardon. Regardez le péché volontaire. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, voyez, après, vous y êtes ? Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ? Voyez la différence entre le péché volontaire et le péché involontaire. Est-ce que ça peut arriver de commettre un mensonge ? Ah mais c'est sérieux, c'est sérieux. Est-ce que ça peut arriver ? Eh bien oui. Mais voyez, moi je fais la différence entre un mensonge ponctuel que l'on va régler. Ah ouais, j'ai menti. J'appelle, j'écris, j'envoie un mail, je ne sais pas, je me débrouille. Mais je répare. Et puis comme c'est écrit, on peut le lire, regardez. Moi je fais la différence entre un péché involontaire et le péché... Regardez, dans l'Apocalypse, le Seigneur parle du péché volontaire, par exemple, regardez. Dans le dernier chapitre, Apocalypse 22, il y a un avertissement terrible. Ça explique bien ce que je suis en train de vous dire. Quelqu'un n'est pas prêt quand il pratique le péché. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et, comment vous avez dans votre Bible, quiconque aime et pratique le mensonge. Vous faites la différence entre un mensonge, un péché involontaire. Ouais, j'ai menti, j'ai honte et c'est pas bien, et j'ai réparé. Et puis celui qui aime et pratique le mensonge, ça me rend bien service de mentir. Il aime, si le gars il aime le mensonge, c'est que ça lui rend bien service. C'est le péché volontaire. Et c'est pour ça que les gens qui aiment le péché, qui pratiquent le péché, ne sont pas prêts à rencontrer le Seigneur. C'est pour ça que c'est bien de revenir chaque dimanche à la croix, de faire le point et de dire « Seigneur, fais-moi grâce. Qu'est-ce que tu n'as pas dû subir pour que mes péchés soient pardonnés ?» Et vous savez qu'en dehors du sang du Seigneur, personne ne peut rejoindre Dieu. Il y a des gens, ils sont affligés plus par un petit bobo à la voiture que par leurs péchés qu'ils commettent sans réaliser. Quand on se contente juste un peu d'une religion, il y a des gens qui disent, moi je prends le baptême, je veux prendre le baptême pour être sauvé. Alors c'est le baptême qui sauve. C'est ça la religion. Il y a des gens qui disent, moi je prends le baptême parce qu'on m'a dit qu'il faut prendre le baptême. Si tu prends le baptême, tu seras sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, est-ce que parce qu'on est baptisé, on est sauvé? Mais, écoutez, moi je le sais, je suis pasteur. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui m'ont dit, je veux prendre le baptême, parce qu'on m'a dit, il faut prendre le baptême, si tu prends le baptême, tu seras sauvé. On n'aura pas parlé de repentance, de conversion, on leur a dit, fais-toi baptiser. Mais ça s'entend aujourd'hui encore. Mais c'est lamentable. Vous voyez, un peu de religion, il en faut un peu de religion, au cas où. Vous voyez, c'est ça les gens, c'est terrible. Quand on croit Dieu, quand on croit en Dieu, mais qu'on ne croit pas Dieu, vous faites la différence? Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas ce que Dieu dit. Vous me suivez? C'est ça, il y a beaucoup de gens. Est-ce que en enfer, je vous pose une question, est-ce que les gens en enfer croient en Dieu? Est-ce que vous pensez que tous les gens en enfer croient en Dieu? Mais si, tout le monde croit en Dieu en enfer, ils sont dans l'éternité. Je peux vous dire que tout le monde en enfer sait que Dieu existe. Oui ou non? C'est évident. Et pourtant, voyez, ils n'ont pas cru Dieu. Quand Dieu leur montrait sur la terre qu'il fallait qu'ils se repentent, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Vous voyez, on n'est pas prêt parce que l'on croit en Dieu. On est prêt parce que l'on croit Dieu. Ce qu'il dit, j'en tiens compte. Dieu nous demande de le croire. Et voyez, quand on est dans un mauvais état d'esprit, on ne comprend pas ce genre de message. Mais ce message, c'est un message d'amour. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut que ça se passe bien. C'est pour ça qu'on est là cet après-midi. Ah Seigneur, je veux que ça se passe bien. Je veux réagir, oui, à cette prédication. Je veux être prêt. Peut-être que tout à l'heure, à 18h, vous aurez besoin de faire le point sur votre éternité. Voilà, sur le baptême. Et les gens, ils attendent. Et ils ont l'impression que ça va aller. Mais la Bible dit que si on entend sa voix, il ne faut pas endurcir son cœur. Moi, j'ai vu des gens pleurer. Vous avez raison, il faut que je me convertisse. Puis non, j'ai encore ça, je tiens encore à ça, j'aime ça. Et puis, on ne les a plus revus. Dieu avait raison quand il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que les hommes, eux, ils raisonnent. Et ils raisonnent, un raisonnement, ça en vaut un autre. Moi, j'attends, on verra bien, j'attends quelques années, on verra. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que plus on attend, plus le cœur s'endurcit. Et il y a des gens qui sont arrivés aux portes de la mort et qui n'ont même pas pu se convertir parce que leur cœur était tellement endurci qu'ils ne croyaient plus au pardon. Vous savez, il y a des gens, au dernier moment, mais c'est sûr, c'est bien au dernier moment qu'on se convertit. Mais c'est un jeu très, très, très dangereux parce que certains ont été tellement endurcis qu'ils ne pouvaient plus après croire à l'amour de Dieu. C'est un message d'amour. Peut-être que vous étiez dans l'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est bien, heureusement, non? Ça vous rassure? Un peu, oui. Hein? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Voilà. Mais personne ne peut se préparer à votre place. Vous pouvez dire, alors qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a une dame l'autre jour qui a amené son mari. Et elle lui a dit, alors qu'est-ce que tu en penses? Alors elle dit, c'est bien. Mais elle ne peut pas se convertir à sa place. Je ne sais pas si vous en êtes avec Dieu. J'ai affaire à vous, je sais que beaucoup de personnes aussi écouteront cette prédication par le site internet, etc. Mais vous qui écoutez cette prédication, est-ce que vous pouvez dire oui, mais moi je suis prêt à le rencontrer. Je vis dans cette attitude, pour moi ce que Dieu dit, c'est important. Si cet après-midi il me rappelle la différence entre le péché volontaire et le péché involontaire, je le prends au sérieux. Je ne ris pas avec ces choses. Voilà, quand est-ce qu'on est prêt? C'est l'inverse de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. En tous les cas, je termine, c'est un choix. Cet après-midi encore, c'est un choix. Ne dites pas, moi je suis athée, moi je suis venu voir comme ça, mais moi je suis athée. Mais l'athéisme, c'est un choix. C'est une chose que vous faites. Ne dites pas, moi je suis athée, mon père était athée, alors je suis athée. Non. Vous avez choisi de ne pas vouloir vous préparer à rencontrer Dieu. Et vous pouvez changer et dire, non, maintenant je vais m'occuper de mon âme. Ce que pensait mon père, c'est ce qu'il pensait. Mais j'ai la pensée de l'éternité, je viens à toi Seigneur. Ou je reviens à toi. Et je veux me préparer. Parce que c'est formidable certainement, quand on part dans l'éternité, de s'entendre dire, entre bon et fidèle serviteur. D'être comme Lazare, porté par les anges dans le sein d'Abraham. Voilà, ça peut nous arriver bientôt, avec ce qui se passe quand même. Avec ce qui se passe, on peut soupçonner que le Seigneur peut revenir bientôt nous chercher. Alors on ferme les yeux quelques instants. Êtes-vous prêts? Répondez-vous à vous-même, si vous voulez en parler avec moi, on pourra en parler. Mais répondez-vous, êtes-vous prêts? Vous qui êtes ici cet après-midi, vous qui écouterez cette prédication, répondez-vous si je devais partir dans l'éternité, là, ce soir, ou demain, si Jésus a enlevé l'Église dans la foulée, est-ce que je partirai? Si Dieu dit « prépare-toi », eh bien, il faut se préparer. La réunion devrait y contribuer. Peut-être que ça va nécessiter un entretien. Peut-être que vous pouvez faire le briefing tout seul. Vous pouvez le faire tout seul avec votre Bible. Vous savez normalement. Vous savez. Vous le savez. Seigneur, je sais où j'en suis. Je suis léger avec cette affaire de péché, la volontaire. Je ne le règle pas, je ne le règle plus. Réapprenez à le régler. Demandez son secours. Quand Dieu dit « prépare-toi », derrière, il y a toute sa bonté, il y a tout son amour, il y a toute sa grâce. C'est pas « prépare-toi et débrouille-toi », c'est « je vais t'aider, je vais te parler, je vais te ramener au calvaire, tu vas voir tout à nouveau, mon amour, mes cicatrices, mes plaies, mon sang versé pour te bénir. Tu auras envie de venir dans mes bras. » Oui, je leur ai envoyé la peste. Le sida, vous savez, c'est une forme de peste, qu'on le veuille ou non. Il meurt toutes les 20 secondes, je crois, sur la terre, un homme du sida. Ou 30 secondes. C'est une forme de peste, on peut dire ce qu'on veut. Et on ne juge pas. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas, quand même, une occasion pour l'humanité de réfléchir? Alors, mon frère, ma sœur, vous qui êtes là cet après-midi, je ne vous connais pas tous. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer votre Dieu? Heureux êtes-vous si ce Dieu est votre Père, si vous pouvez prier, dire « mon Père ». Ah, c'est clair que vous êtes heureux. Si vous pouvez dire « non, mais ce n'est pas que le Seigneur du ciel, il est mon Père ». Ah, vous êtes heureux. Tout à l'heure, on va voir ceux qui veulent prendre le baptême. Heureux sont-ils déjà ceux qui sont passés par la repentance et par la conversion. Je vais prier. Priez dans votre cœur, faites la prière que vous avez à faire dans votre âme. Laissez Dieu vous aider. Oui, la Bible dit que il faut le chercher pendant qu'il se trouve. Notre Père, notre Dieu, tu as voulu que nous ayons des moments comme celui-ci. Tu as créé les lieux de culte, les assemblées, pour que les hommes se retrouvent autour de ta parole. Tu sais nous parler, Seigneur, pour nous ramener toujours près de toi. Tu vois cet auditoire qui est là, tu vois ceux qui viennent, tu vois ceux qui peut-être n'ont pas pris la Sainte-Cène tout à l'heure, qui doivent venir à toi ou revenir à toi. Tu vois ceux qui écouteront cette prédication par le biais d'Internet. Qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une église, Seigneur, aide-les à être sérieux. Non pas à croire en toi, mais à te croire hein, ce que tu dis. Seigneur, c'est ta volonté, elle est bonne. Puisque l'éternité est là devant nous, nous voulons être prêts. Tu vois tous ces gens qui vont mourir dans les heures à venir, par le biais de ces bombardements, par le biais de ces cataclysmes, de ces guerres civiles. Tous ces gens qui vont mourir sur la terre, mon Dieu, aide-les à se préparer à te rencontrer. Te prions vraiment, Seigneur, pour notre monde, pour notre ville de Toulouse. Nous te prions pour les églises, pour que les gens puissent venir à toi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Donne-nous cette profondeur, que toute légèreté soit bannie et que les croyants de Toulouse apprennent à te chercher. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta patience à notre égard. Tu as dit par l'apôtre que ta patience était notre salut. Nous l'avons tellement vérifié, Seigneur. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Garde-nous, tiens-nous prêts pour le jour où tu vas revenir. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.